pensais faire cette présentation comme je l'ai fait dans d'autres parcs, même si dans la monographie, j'ai essayé de communiquer en direction d'un public plus élargi. Quand j'ai décidé d'écrire une monographie, en réalité, j'avais déjà pris beaucoup de notes, de choses qui m'étaient arrivées voilà, pendant la 16, et donc j'avais déjà beaucoup de choses très désordonnées. Mais c'était important pour moi de les mettre dans l'ordre et de les communiquer, non seulement pour les communiquer à d'autres, mais aussi pour clarifier ma propre expérience. Et donc le travail que j'ai fait a été important pour pouvoir intégrer l'expérience ou les expériences que j'ai eues. Je me suis rendu compte que toutes les notes que j'avais, certaines notes étaient plutôt poétiques, d'autres très déstructurées. Et donc le fait de mettre de l'ordre dans toutes ces notes et tous ces poèmes, c'était important pour moi, avant tout, pouvoir intégrer cette expérience. Et le travail que j'ai réalisé pour écrire la monographie a duré plus de 2 ans. Ça m'a servi pour intégrer cette expérience qui sinon serait restée dans le vide, enfin, suspendue dans le vide. Et ça m'a servi aussi pour renforcer le dessin. Parce que ce qu'il fallait que je fasse avant de me mettre à écrire, c'était d'entrer dans l'expérience, ou en tout cas essayer d'entrer dans l'expérience. Et donc la monographie a été comme un fil conducteur qui m'a amené à approfondir l'expérience. La façon dont la monographie a été écrite, c'est un choix. J'aurais pu faire un travail très philosophique, très académique, très intellectuel, ou j'aurais pu faire un travail très poétique. J'aurais pu aussi ajouter plein de thématiques qui sont en relation avec le thème central. Donc, pendant que j'écrivais, j'ai été obligée en fait, de faire un choix. Donc, j'ai enlevé toutes les considérations collatérales qui auraient peut-être servi à expliquer un peu mieux ce que j'étais en train de dire, mais qui nous auraient emmené en dehors du thème. Donc, j'ai rassemblé donc, tout le matériel, ça faisait 80 pages et c'était pas fini. Déjà, faire un premier travail d'enlever, d'aller à l'essentiel. Donc, toujours dans le contexte de la 16. Donc, c'est une traduction que ma conscience fait d'une expérience que j'ai eue. Dans ma discipline mentale, la troisième pattern s'appelle la liberté. Donc, le thème de la liberté était en coprésence. Donc, la traduction de registres du profond sont situés dans ce contexte. Dans d'autres expériences, il y a eu des traductions d'un autre type, avec d'autres thématiques, avec le thème de l'immortalité. Mais c'est ma conscience qui a fait cette traduction. Et ça m'a semblé important de le communiquer. Donc, le thème central de la monographie est donc le hasard, qui a à voir avec la liberté, qui est donc une traduction du profond que certains d'entre vous ont peut-être aussi déjà eu. Ce type de traduction est arrivé souvent pendant le travail de la 16. Quand je suis arrivée dans cette situation, ça a tout cassé. Je vais vous expliquer comment. Dans la discipline mentale, dans les derniers pas, surtout dans le 10e, tu dois enlever tout ce que tu penses, tout ce que tu sens, tout ce que tu imagines, et tout ce qui apparaît, c'est pas ça. Donc j'essayais d'enlever. Dit d'une autre façon un peu plus marrante, c'est écouter au-delà des sons, penser au-delà des pensées. C'est un acte lancé qui cherche quelque chose qui n'est pas. Et pendant que je faisais ce travail d'enlever, avec beaucoup de tranquillité, à un moment donné, est arrivé quelque chose. Ah, dis-moi, j'ai l'impression de m'être évanouie. J'ai perdu le contact. Pour un instant, comme si je m'étais endormie profondément. Je n'y étais plus. Vraiment comme si je m'étais évanouie. Dans ces moments-là, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. De ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'après, quand ma conscience a repris le contrôle, les choses avaient changé. Parfois, j'avais des concomitances physiques, énergétiques. Donc je partais, et puis quand je revenais, je sentais la force. Et la rapidité avec laquelle je faisais des associations mentales, des opérations mentales, était différente. Et la façon que j'avais de voir le monde et ma relation au monde et moi-même était différente. Comme si dans ces moments-là, j'avais perdu la référence, la structure de référence Et comme si les choses s'étaient réorganisées d'une autre façon. Et je voyais des choses que je n'avais jamais vues avant. Par exemple, dans la littérature mystique, on entend parler des... Enfin, on voit les visions, le thème des visions. Et donc moi, j'ai relié cette structuration différente avec ces visions. C'était des visions d'un monde différent. Le thème du hasard, de l'aléatoire, est arrivé dans ces situations comme une traduction de ces moments de changement. Comment j'arrive au thème du hasard? Si je suis dans une situation mentale et physique soumise à des déterminismes qui sont donnés par le corps, par la nature du corps, qui sont nés par ma configuration énergétique, qui sont liés donc au corps, qui sont liés aussi à mon fonctionnement de conscience et aussi à la structuration du monde culturel, au moment où donc j'ai commencé à enlever toutes ces choses-là, je me suis retrouvée dans un moment, c'est comme ça que je l'ai traduit, dans un moment où tout était possible et qu'aucun déterminisme ne conditionnait mes mouvements. C'est comme si les possibilités s'étaient amplifiées à 360 degrés. Et donc chaque mouvement n'était pas déterminé par un déterminisme mental, mais j'étais libre. Je n'étais pas libérée ou libre de quelque chose, j'étais libre, c'est tout. On pourrait dire liberté pure. Et donc cette liberté pure, moi je l'ai appelée hasard, aléatoire. Je ne sais pas si j'arrive à transmettre un petit peu le registre.
Oui, oui. Si, ça passe.
C'est capiche. Le registre, ça a été que je manquais d'air, j'avais des vertiges. C'était tellement choquant de se retrouver face à d'infinies possibilités, parce qu'à ce moment-là, les possibilités étaient vraiment infinies. Je me suis enthousiasmée, mais j'ai aussi eu la trouille. C'était difficile d'intégrer ce registre dans le quotidien. C'était difficile de mettre en relation cette chose avec le quotidien. Et donc j'ai commencé à écrire sous forme poétique. C'était l'unique façon de mettre par écrit des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Ce qui m'est arrivé ensuite, c'est que cette énorme liberté, cette liberté infinie, je l'ai vue dans tout. Dans tout, c'est de dire dans tout, dans le processus humain, dans moi-même, dans les autres, dans la nature qui m'entoure. Et je me suis rendu compte que ce type d'espace, pour l'appeler, était présent partout et à chaque moment. Et donc avec cette accélération que j'avais à ce moment-là au niveau mental, avec beaucoup d'énergie qui circulait, j'avais aussi des visions pendant que je faisais des choses du quotidien. Je me brossais les dents, j'allais me coucher, je travaillais. C'était comme des rafales de silence. C'est un peu altéré quand même. Ce qui était enthousiasmant, c'est que les façons de structurer les choses, comment je voyais les choses, bougeaient. Et donc que cette infinité de possibilités existait dans chaque personne, mais aussi dans la nature. J'ai commencé à regarder les arbres. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas deux arbres pareils. Les feuilles, très difficile de trouver deux feuilles pareilles, exactement pareilles. On peut continuer à l'infini, les empreintes digitales, les yeux, la forme des gens. Et aussi dans la matière non organique, les nuages.
Bon, non, les nuages, mais les nuages.
Et trouve-moi deux nuages pareils. Ou deux configurations de cristaux identiques. Et donc je me suis rendu compte que le mouvement, la mutation et
la diversité
étaient le fondement, les fondements même de ce monde. Et donc dans le fond, la liberté. Bien sûr, à l'intérieur de contextes déterminés, la liberté se donnait dans le monde non organique, à l'intérieur de conditions. Et dans le monde animal et végétal, elle se donne aussi à l'intérieur d'autres déterminismes et conditionnements. Et dans le monde donc naturel mais humain, il y a encore effectivement d'autres déterminismes avec plus d'amplitude, de marge de manœuvre. Donc la différence entre ces différents niveaux était justement l'amplitude de la liberté. Donc le mental humain est effectivement la plus grande expression, l'expression de la plus grande amplitude, mais qu'elle était encore liée à des déterminismes et qu'elle était donc encore en processus pour se libérer. À ce moment-là, j'ai commencé à lire et à étudier. J'ai relu ce truc à propos de l'argile du cosmos. Parce que je me rappelle que là, ça parlait de l'indétermination du hasard. Ce chapitre du jour du lion ailé m'a toujours beaucoup touchée, mais je ne comprenais pas pourquoi. Quand je suis allée le relire, il était en train de parler de quelque chose de très précis. Il n'était pas en train de raconter ça parce que c'était marrant, divertissant. Non, il était en train de dire quelque chose de très précis. Et donc j'ai mis ce petit paragraphe au début de ma monographie. Et là, il décrit d'une certaine façon l'être humain, avec ses déterminismes symétriques. Il décrit cet être humain élémentaire, et qu'il manquait donc encore quelques étapes pour arriver à accomplir l'indétermination et le hasard. Et donc ça m'a servi comme un pas pour intégrer cette expérience, que le processus évolutif va vers l'indétermination et la liberté. Et ce que j'avais expérimenté, c'était pas juste une hallucination d'un mental en plein délire, mais que ça faisait partie d'une réalité que Silo était en train de raconter dans ce récit. Et en lisant certains matériels très anciens, de réunions très anciennes de 1966, j'ai trouvé d'autres citations au sujet du hasard. Dans ce cas-là non plus, moi je ne comprenais pas trop ce qu'il disait dans ces phrases. Mais elle me résonnait. Et il parlait encore du thème du hasard, associé au thème du temps. Dans ces anciens matériels, Silo cite des auteurs. Il cite Bergson, Prigogine. Donc je suis allée étudier, parce que moi j'avais besoin de comprendre cette expérience, ça pouvait pas en rester là, et j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qu'il racontait là, Silo, dans ses phrases. Donc là j'ai commencé à étudier, et là les choses se sont amplifiées de façon démesurée. Donc tu lis Bergson qui fait référence à d'autres auteurs, tu lis Prigogine qui fait référence à d'autres auteurs encore, je te dis, j'ai lu plein de choses. Donc, ça a été très intéressant parce que j'ai vu que cette thématique du hasard ou de l'extrême liberté, on l'a trouvée par exemple dans des domaines absolument inattendus, comme la chimie par exemple, la biologie. Et moi, c'était inattendu. J'étais habituée à une vision du monde statique, ou qu'on croit statique, la physique newtonienne par exemple. C'était impressionnant par exemple un Français, Monod, qui est un biologiste, qui décrit donc la situation du hasard, qui explique ça comme un élément déterminant de l'évolution. Donc Prigogine aussi, qui développe les théories du chaos, dans lequel il explique que les systèmes naturels se trouvent face à des possibilités et des bifurcations dans lesquelles il n'est jamais déterminé par avance ce que le système va choisir. Donc Monod dit que la mutation aléatoire est justement ce sur quoi se fonde
l'évolution
de tout. Par exemple, toujours en se référant à Monod, il dit que dans un centimètre cube d'eau, bon, ça a été expérimenté aussi, dans un centimètre cube d'eau, il y a au moins 1000 mutations au minimum. Et dans le genre humain, il existe actuellement des millions de mutations. Et certaines mutations vont se poursuivre, évoluer, parce qu'elles servent, et d'autres non. Et c'est des mutations qui ne servent pas parce qu'elles sont trop vieilles. Non, c'est des mutations qui ne servent pas actuellement parce qu'elles sont trop avancées. Et donc, pour ces mutations, le système naturel et social n'est pas assez évolué pour que ces mutations puissent s'adapter. Juste des exemples, pour revenir à l'expérience, j'ai continué à étudier. J'ai trouvé aussi des mythes anciens dans lesquels étaient racontés, alors soit sous forme de dieux, soit sous forme de récits mythologiques, des registres qui avaient à voir avec ces registres de hasard et d'aléatoire. Donc ce n'est pas un registre qui est né d'hier, mais ce registre apparemment a été expérimenté depuis des millénaires. Tout ça m'a servi à intégrer l'expérience, à voir que ce n'était pas une hallucination. Un petit peu une hallucination. Mais en tout cas, je n'étais pas le seul, pour le moment, au moins. Et donc cette étude me servait à maintenir et à renforcer ce registre. Et donc cela me servait à approfondir et mon travail d'assaise. En revenant plus au registre, ça va ? Bon, là j'ai parlé du thème de la biologie, des études, tout ça, mais là pour revenir au registre, dans une expérience plus personnelle de ce qu'on peut observer quand je dis que cette liberté existe continuellement et à chaque moment et partout, avec différents niveaux, j'ai commencé à observer comment moi je travaille avec ma propre conscience. Et ça, on peut tous l'expérimenter. Dis-moi, en vivant tout simplement, en observant, chaque minute, ma conscience a la possibilité, enfin, est en situation de choisir, parfois entre deux possibilités et parfois entre beaucoup plus de possibilités. Dans certaines situations, dans des moments de crise, on a par exemple une plus grande amplitude de choix. C'est des moments un peu plus évidents voilà, à observer, où la conscience a des choix plus importants. Et si j'observe ma conscience, la conscience en réalité se retrouve souvent dans ces moments de suspension, dans laquelle elle est dans une intention qui est lancée, mais elle n'a pas encore choisi l'objet. Et les objets parfois sont peu nombreux et parfois nombreux. Mais l'intéressant, c'est ces moments de suspension dans lesquels se trouve la conscience. Parce que ces moments-là sont les moments d'expression de cette liberté dans ta conscience. Et c'est continuel. La conscience lance un acte, se suspend et va vers un objet. Donc je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit « Putain !» Ce truc-là où la liberté portée à cette extrémité qui amène à une liberté infinie, moi en réalité je l'ai tout le temps. Et de même qu'au niveau biologique il existe plein de mutations, les mutations biologiques sont considérées comme des erreurs. Des erreurs dans la transmission du code génétique, des informations. Donc ce sont des déviations par rapport au plan. Dans mon mental, les déviations sont perpétuelles. Les erreurs sont perpétuelles, mais pas dans le sens négatif. Parce que les déviations et les erreurs sont des alternatives, ça ouvre des possibilités. C'est ce qui amplifie la liberté et qui permet la diversité. Le fait de penser là, chacun d'entre nous, de pouvoir faire des choix différents, c'est ce qui peut permettre de mettre en place l'échelon qui permet de faire un saut. Si on était seulement déterminé, si on était que déterminé, tous on ferait toujours les mêmes choix. Bon choix. Mais le fait qu'on fasse des choix tout le temps différents, même en ce moment, là, bon, pendant que vous écoutez, vous faites le choix d'interpréter d'une façon ou d'une autre. Vous êtes en train de faire des choix. Toute cette diversité d'opinions et de choix que l'on met en œuvre, c'est ce sur quoi s'appuie la possibilité d'évolution de l'être humain. Bon, ça, c'est ma vision. Et donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous sommes l'expression de cette liberté. À partir de notre corps, avec nos propres mutations biologiques, jusqu'à notre conscience, avec nos propres erreurs. Et donc, c'est pas qu'avec tout ça, on doit atteindre un espace de liberté. Parce que c'est un peu une vision un peu chrétienne, non ? Avec un grand effort, une grande souffrance, on doit arriver à cet espace du paradis. Que cet espace de liberté, il est là, que nous sommes cet espace de liberté. Si on veut, si on peut le dire comme ça, nous sommes l'expression de ce registre. Nous sommes l'expression de cette force. C'est pas qu'on est méchant. Et avec de gros efforts, nous devons atteindre l'espace. Oui. Non, nous sommes actuellement, en ce moment, cet espace. Et toutes les actions que nous faisons sont des expressions de cet espace. C'est comme si cet espace, dans le moment où nous on fait ses choix, nous parle continuellement. Nous sommes continuellement poussés par cet espace de liberté. Là est entré cet autre thème, que la conscience, que ce soit au niveau humain, au niveau d'un groupe, sous la poussée de cet espace de liberté, nous sommes continuellement en train de lancer des tentatives. Des tentatives pour quoi faire ? Pour dépasser la douleur et la souffrance. Douleur et souffrance qui, avec la mort, sont les déterminismes qui nous soumettent. Chaque poussée, chaque tentative, nous pousse en fait à dépasser ces déterminismes de la douleur, de la souffrance, auxquels nous sommes soumis. Et chaque choix que nous faisons en ce moment, je décide là, à chaque moment, ce que je suis en train de dire, quel mot choisir. Et vous choisissez qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je refuse. Donc, C'est une tentative que fait la conscience de dépasser la douleur et la souffrance, c'est-à-dire le déterminisme. Donc au niveau de l'humanité, tout ce qu'a fait l'humanité, toutes les choses qu'a fait l'humanité sont des tentatives pour dépasser la douleur et la souffrance. Certaines tentatives sont horribles.
Ça va faire un tour.
Mais vu sous cet angle, c'est l'être humain qui essaye de sortir de ses déterminismes. Le déterminisme le plus grand, c'est celui de la mort. Là, j'ai fait une autre découverte pour y arriver. Dis donc, je ne pouvais pas avoir du ressentiment vis-à-vis de l'humanité ou avec moi-même, parce que l'humanité a fait des erreurs. Donc l'humanité a produit des choses terribles et elle en produit encore. Mais je ne peux pas éprouver du ressentiment vis-à-vis de l'humanité parce qu'elle tente de faire des choses. Dans ma vie, j'ai fait des tas d'erreurs et des stupidités aussi. Je ne peux pas continuer à avoir du ressentiment envers moi-même parce que j'ai fait des erreurs en faisant des tentatives. Et chaque personne a cette intention de dépasser ses déterminismes. Et donc chacune fait des choix pour dépasser ses déterminismes. Et donc pour avancer vers l'indéterminisme. Et là, le hasard, l'aléatoire. On ne peut pas avoir du ressentiment pour des gens qui se trompent. Et donc, après tout ce travail d'études, etc., du coup, je me suis réconciliée. J'ai trouvé ce registre de réconciliation avec l'humanité, avec les autres et avec moi-même. Dans une autre vision de l'histoire, histoire personnelle et histoire de l'humanité. Donc, dans cette situation historique dans laquelle moi je suis née, dans un moment déterminé. Donc l'humanité a fait des tentatives, des millions de tentatives perpétuelles pour rompre ce déterminisme. Et elle continue à les faire. Historiquement, dans les périodes de stabilité, entre guillemets, les nouvelles choses, les nouvelles idées ont moins d'espace. Parce qu'il y a un déterminisme lié à la structuration du monde qui conditionne les choses. Et tout ça bouge, et dans les moments de crise, toutes ces choses-là apparaissent de façon très forte. Ça peut nous plaire ou pas, mais ce sont des tentatives de l'être humain pour avancer. Ces théories scientifiques que j'ai étudiées, et qui m'ont semblé intéressantes, que ce soit en physique, chimie, biologie, anthropologie, histoire, elles montrent que l'être humain est en train de faire une grande tentative pour dépasser ce moment, ce déterminisme et donner un saut. Merci. Au XVIIIe siècle, on avait découvert les lois qui régissent le monde et donc on était dans quelque chose de... Voilà, ça y est, on avait tout réglé, tout était parfait. Maintenant, on découvre les théories scientifiques qui sont des nouveaux mythes, qui sont les mythes actuels, qui découvrent que le fondement de l'évolution humaine, c'est la mutation. C'est le changement, que ce n'est pas un monde immobile dans lequel il suffit de trouver les lois et ça y est, c'est bon, c'est stable et c'est fixé. Mais la règle fondamentale, c'est le changement, l'erreur. Une dernière compréhension. Donc, moi, j'ai compris que pour avancer, j'avais besoin de découvrir cet espace en moi, d'être conscient de cet espace en moi. Cet espace existe en moi et dans les autres. Et l'unique façon d'en être conscient, c'est justement d'augmenter le niveau de conscience. Et je crois que la conscience que l'on peut avoir de cette liberté et de la liberté de l'univers, c'est un élément fondamental pour faire un saut de conscience, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de l'humanité.
Basta.
C'est tout.
Finito.
C'est fini. Si vous avez des questions, évitez de les poser parce qu'il ne saura pas répondre.
Quand tu as dit, par exemple, l'être humain est en train de faire une grande tentative pour dépasser ce déterminisme, est-ce que c'est par rapport à un moment présent, enfin, dans le temps, là, on peut situer ou pas?
Bon, je pense que l'humanité l'a toujours fait. Et il y a des choses importantes quand même qui ont surgi au cours de du processus. Je pense que toutes les grandes civilisations et les grandes religions sont nés à partir de l'irruption de cet espace. Particulièrement par rapport à ce moment historique, nous sommes, je pense qu'on est dans le moment d'un grand saut. Il y a beaucoup d'indicateurs, il y a tous les indicateurs. L'humanité cherche à rompre des schémas, elle cherche à rompre une vision du monde qui lui permettra de faire un grand saut évolutif. Comparable à mon avis, comparable au moment où on est passé du stade animal au stade humain. Je ne sais pas à quel moment situer ça, peut-être à la découverte du feu. Toujours dans l'histoire, il y a eu des sauts avec l'apparition de l'humanisme dans le XVIe siècle. Mais avec la potentialité là, qu'il y a actuellement, ces sauts-là, finalement, c'est des petits sauts. Bon, le saut de conscience, là, je ne le vois pas comme un changement d'opinion sur tel sujet, sur le recyclage, sur le tri sélectif. Il y a la possibilité, je ne dis pas que ça va arriver, mais à l'intérieur de cette vision-là que j'ai, ce sont des possibilités. C'est un moment de crise où s'ouvre énormément de possibilités. Et l'être humain est en train de faire tellement des millions de tentatives. Peut-être que parmi ces millions de tentatives, il y en a une qui fonctionnera.
Et si.
Et on pourra faire ce saut de conscience dans le sens d'une amplification de la conscience. Moi, j'ai imaginé, pour moi, mais je pense que ça peut être utile à d'autres. Et moi, je vis dans ma vie quotidienne avec l'impression d'être reliée à mes images, à mes impressions, à mon corps, à ce que je dois faire. Et je me suis imaginé une vie où je suis continuellement conscient de cet espace de liberté. Moi, ça change tout. Et ça, je pense que c'est... Enfin, je vois que ça peut être un saut de conscience au niveau humain, dans lequel nous sommes conscients de cet énorme espace de liberté.
Et quand tu parles de cet espace de liberté, c'est que tu enlèves tous les déterminismes ?
Ce que je crois, c'est que comme nous vivons à l'intérieur de conditions, par exemple, la conscience travaille avec la relation acte-objet. Ça, c'est un déterminisme. Chaque acte correspond à un objet. Ça, c'est les conditions dans lesquelles nous vivons. Mais peut-être que chacun d'entre nous a expérimenté des moments que nous appelons accès au profond, dans lesquels ces déterminismes se rompent. Je pense que c'est impossible d'être tout le temps dans cet état de liberté pure, d'être tout le temps dans cet état. Mais le fait d'être conscient que tu sais que tu es l'expression de cet espace, ça me semble que c'est important et nécessaire pour pouvoir stabiliser ce niveau de conscience. Quand vous avez fait les disciplines, certains ont eu des registres peut-être de mort, d'autres du déterminisme le plus absolu, mais quoi qu'il en soit, de registres d'emprisonnement. Et c'est seulement en ayant ce registre-là, et c'est la conscience de ce registre-là, qu'on a pu faire d'autres expériences. Normalement, dans la vie quotidienne, on est dans ce registre-là, d'être emprisonné, limité. Il dit, mais le fait d'être conscient, moi je ne dis pas d'être tout le temps dans le profond, nous avons un corps et une conscience, mais le fait de savoir que cette chose existe, ça change toutes les perspectives, sur moi-même, sur les autres, sur l'humanité. Par exemple, tous les jours, on voit la violence. La violence, c'est une façon d'imposer à d'autres une façon de voir le monde. Voilà, si on réduit au minimum, c'est ça. Si je suis conscient, si je sais que le fondement de l'évolution, c'est la liberté, et que cet espace de liberté, et c'est ce qui me pousse continuellement à faire ces tentatives, la violence perd tout sens. Et si je ne suis pas conscient, je crois que mes limites sont la vérité. Et donc j'essaye de les imposer aux autres. Et historiquement, ça a toujours été comme ça. Là, actuellement, il y a une façon, une vision, une structuration du monde, et de l'être humain, et de l'histoire, qui est limitée. Je ne crois pas qu'on puisse faire un saut de conscience dans lequel...
La structuration ne sera plus nécessaire.
Je crois qu'on construira une nouvelle structuration du monde. Donc la chose la plus importante sera le changement, la mutation, la tentative. Nous ne serons pas valorisés comme actuellement ceux qui s'adaptent, mais nous serons justement pris en compte ces tentatives qui rompent des schémas. Et la violence que n'importe qui peut mettre en œuvre pour imposer une vision ou une autre pour faire tout sens. Si on est dans un autre niveau de conscience.
Fulvio, j'essaie de me tourner dans l'expérience dans laquelle d'une manière je la reconnais, mais justement les mots que je peux mettre, ces mots, ces notions, ces compréhensions, ces significations, état, espace, temps, liberté, par exemple, aussi.
Et qu'est-ce que tu veux qu'il précise?
Le mot de liberté, mon expérience avec liberté. Qu'est-ce que tu peux me dire?
Dis bon, bien sûr, moi je fais des traductions à l'intérieur de mon propre contexte, qui traduisent une expérience. C'est-à-dire que les mots qu'on attribue à cette expérience, ou le type d'image à travers lesquelles je raconte cette expérience, bien sûr, nécessairement, sont différentes. Peut-être toi tu vas dire état de plénitude, lui va dire espace de liberté, quelqu'un d'autre va dire espace d'inspiration. Mais il doit y avoir, je crois qu'il y a un élément commun à tous, important, même si les traductions sont différentes. Je crois que ce qu'on peut reconnaître, c'est la rupture d'une structuration mentale. Je pense que ça devrait être, je crois que ça peut être l'élément commun qui nous rassemble, qui rend commun ces diverses traductions. Oui, au début, je disais que j'avais l'impression que cette façon de voir le monde s'était cassée et que une nouvelle façon de voir le monde avait vu le jour. Je crois, je ne veux pas imposer, je crois que dans les expériences qui ont à voir avec le
monde,
un élément important, c'est la rupture d'une façon de voir. Et ce registre, moi, ça m'a fait peur. Et que certains mystiques anciens décrivaient justement à travers la rencontre avec une divinité. Cette chose qui leur faisait peur. Et je pense que c'est une peur parce qu'effectivement, tout se casse à ce moment-là. Ta façon de voir, ta façon d'expérimenter, ta façon de sentir. Je ne dis pas que c'est obligatoire d'avoir peur, mais je pense que c'est des indicateurs d'une rupture de niveau. Et c'est justement là qu'on peut s'inspirer, prendre l'inspiration. On peut se nourrir avec des choses nouvelles. Je crois que le langage qu'on utilise pour raconter, nécessairement, va être différent. Les allégories sont différentes. Submerger, déboussoler. Qui a à voir justement avec la suspension du moi, parce que c'est toujours le moi qui tient les fils. C'est le moi qui croit que les choses sont d'une certaine façon. Tu t'enlèves le contrôleur et tout est complètement bouleversé. Et là, tu peux commencer à voir d'une façon différente.
Parmi la grande quantité de questions que je voudrais te poser, je voudrais demander si tu peux témoigner de ton expérience par rapport à la tentative de réveiller en toi et en nous la conscience, la coprésence de cet espace de liberté. Comment c'est cette tentative? Mais aussi cette tentative, c'est pas...
Si j'ai bien compris la question, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'être humain est continuellement en train de faire des tentatives. Dans la situation historique dans laquelle nous sommes, il fait des tentatives pour dépasser la douleur et la souffrance, qui sont des déterminismes forts. En ce moment particulier, moi, comme personne, qui me trouve immergée dans un monde qui ne me donne pas de réponse, qui est la situation de toute l'humanité, qui est dans un monde qui ne donne pas de réponse, cette tentative est encore plus forte. On souffre dans cette situation. On est dans une situation de souffrance, de violence en général, douleur aussi, physique, dans beaucoup d'endroits du monde. Moi, je relis cette tentative à ce qu'on appelle la clameur des gens, des peuples. Et donc, dans ces moments-là, il y a une clameur à la fois collective et individuelle.
C'est un jeu de cas.
De gens qui cherchent des nouvelles réponses.
Quand tu as le registre « tout est possible », tu vis déjà autre chose.
Comme de tout.
Et tu es habité par ce registre.
Tout c'est habitat de la question.
Je ne sais pas, en fait, ce que j'ai reçu de ta monographie, ta production, c'est l'impulsion de révéler ça chez les autres. Parce que ce n'est pas n'importe quelle tentative, c'est la tentative sur... sur un sujet et aussi comment, parce que ce registre, il est difficile pour vivre dans la vie.
Justement, la tentative qu'on fait, c'est justement cette tentative de monter le niveau de conscience. Hein? Moi, j'y arrive pas toujours. Quand j'y arrive, on peut relier ça à la manifestation de la force. Mais c'est un registre fort de lucidité, de clarté. C'est la force et le niveau de conscience plus élevé. Ça m'arrive, je peux pas rester comme ça dans mon coin immobile sans communiquer. C'est impossible. C'est pas que c'est trop fort et comme un fou, faut que ça sorte.
Non.
À moi, ça peut pas rester à l'intérieur. Et toute cette force, mais moi, ça me donne envie de le communiquer. Et après, la façon de communiquer, chacun choisit son. Moi, je fais des conférences. Je fais des monologues. Je raconte. Mais quand je suis dans ce registre ne peut pas rester à l'intérieur. C'est pas un registre qui est à moi.
Dans la continuité de ce que dit Denis, je voudrais savoir qu'est-ce que pour toi, quand tu dis c'est une expérience qui est très ancienne, quelle trace tu as trouvé toi de cette ancienneté?
Bon, dans la monographie, je parle d'un seulement. C'est un dieu pré-védique qui s'appelle Varuna, qui a été un dieu très puissant pendant de nombreuses années.
Est-ce que tu as trouvé des
écrits
ou
des...
T'as
pas vu,
c'est bien,
il peut continuer à parler. Ça parle, oui. Ah, dans certains textes soufis, eux, ils le traduisent en général, souvent avec le registre de l'amour. Donc ils utilisent d'autres mots. Mais si tu lis les textes, mais moi je, quand tu lis le texte, il y a quand même des situations qu'ils décrivent qui, pour moi, résonnent et ont à voir avec cette expérience. Dans les Rig Veda, je ne sais pas si vous connaissez, il y a ces chants de la création. Ce n'est pas vraiment un mythe. Celui qui écrit cherche à raconter la création. C'est très fort de lire ce texte. Donc la personne qui écrit dit on ne sait pas pourquoi ça a été créé. Peut-être les dieux l'ont créé, ou peut-être que les dieux ont été eux-mêmes créés. Peut-être qu'ils sont successifs, postérieurs à la création. Sûrement celui qui a fait tout ça le sait. Ou peut-être qu'il ne le sait pas. Pour moi c'était très fort. Peut-être pour vous ça vous résonne pas, mais pour moi.
Je voulais témoigner de quelque chose parce que j'ai traduit mon travail. En général, je traduis des choses qui me plaisent. Et ce qui m'a plu dans ce travail-là, c'est que c'est cette liberté de choix, cette notion de liberté. Effectivement, quand j'ai fait la discipline mentale,
le
Badis te projette dans ce domaine. Où il y a tout est possible. Et dans mon interprétation de tout est possible, j'avais un petit peu fermé en lui donnant un nom, qui était l'espace du principe créateur. Mais ce que je me rends compte, ce que j'ai trouvé très, très, très beau, c'est dans cet espace créateur, il est co-présent à chaque moment. Et ça me met en résonance avec ce que dit Sido, la recherche des moments sacrés, du sacré dans le temps. Parce que si on a ce regard c'est l'expression de cet espace, et ça m'a bouleversé. C'est pour ça que j'ai travaillé.
C'est comme ça, c'est ça.
C'est une demande plus logique. J'ai donné une réponse à ça. On est dans une discussion avec Didier et deux autres personnes. Le mercredi, on s'est posé la question de la contradiction qu'il pouvait y avoir entre le plan, qui existe un plan, et des événements aléatoires. Non, c'est ça. C'est le déterminisme.
Comment lui résout cette contradiction?
Tu
qui va résonner au grand.
Mais est-ce que c'est une contradiction parce que...
Moi, je l'ai résolu comme ça. Nous, en général, on imagine le plan comme quelque chose, comme un destin. Qui nous a dit à nous, qui nous a dit que le plan ne serait pas indétermination et hasard ou aléatoire? Pourquoi le plan, ce ne serait pas justement de lancer plein de tentatives pour avancer vers le champ de l'indétermination et de la liberté? Et pourquoi le plan devrait être quelque chose qui est fini et qui a déjà une conclusion? Moi, je me suis donné la réponse comme ça et ça me plaît comme ça. C'est justement, c'est une rupture d'imaginer un plan comme quelque chose de déjà fini, de déjà écrit, ou qu'au contraire, le plan, c'est quelque chose qui est en construction, en processus, et qui est la construction.
Mais pourtant, quand tu... La contradiction, elle est que les choses sont indéterminées, mais en même temps, il y a une intention qui devrait s'exprimer. Mais pourtant, quand tu... La contradiction, elle est... que les choses sont indéterminées, mais en même temps, il y a une intention qui devrait s'exprimer.
Voilà, c'est la même
chose. Tout est indéterminé, et en même temps, il explique qu'il y a pour aller vers quelque chose. Donc, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que l'indétermination n'est pas le... c'est juste la matière. Je ne sais pas comment expliquer. Une intention ne peut pas s'exprimer s'il y a tout le temps de l'indétermination. Je ne sais pas comment dire le... je vais peut-être l'expliquer autrement. Et, parce que je lis beaucoup et l'histoire, et j'ai fait des allers-retours entre avant, après Jésus-Christ, l'Antiquité. Et le registre que j'avais, c'est que l'histoire avait une intention. Alors, peut-être que c'est moi qui veux voir ça comme ça, c'est possible aussi. Mais... quand je regardais les faits, et tout d'un coup, je lissais des choses qui n'avaient strictement rien à voir ensemble, et j'arrivais à trouver des liens entre des événements qui pouvaient avoir 4000 ans de... Enfin, comme si un événement qui avait eu lieu 4000 ans avant trouvait son effet 4000 ans après. Et peut rester dormir là comme ça, alors je l'explique comme ça. Et des événements comme ça, il y en a beaucoup. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup d'indétermination. Et pourtant, le registre que j'avais, c'est que l'histoire cherche comme si elle ne le faisait pas par hasard. Enfin, ça manque peut-être, nous, on n'a pas la vision, on a la vision du temps qui est celui d'un humain, mais pas la vision géologique. Non, ça se comprend. Donc oui, indétermination, c'est sûr, puisqu'on voit beaucoup de chaos, mais c'est comme si ce chaos cherchait à s'organiser.
Intéressant et difficile.
Vas-y. Et un autre exemple, c'est que je me rendais compte, par exemple, que... En fait, oui, dans les moments de crise, c'est le moment où il y a le plus de... où surgit le plus de possibilités, comme tu disais tout à l'heure. Mais si je le ramène à mon expérience personnelle, c'est aussi parce que c'est les moments où je demande le plus. Parce que j'ai besoin, c'est une nécessité. C'est... Donc, bon, après je projette, mais effectivement, je vois des situations dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui sortent et qui semblent comme des indéterminations d'autres choses. Mais comme on ne fait pas le lien entre tout ça, on arrive plus mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Entre l'indétermination, le hasard.
J'aime ce moment justement où on n'a pas de réponse. Parce que, au profond, on ne peut rien en dire. On se trouve devant ce paradoxe que tout est cassé et la possibilité de réunir tout avec une explication. Et parce que ça laisse quelque chose en suspens, un mystère.
Et aussi, lorsque tu as écrit, ça m'a bougé mon registre de l'intentionnalité. Je ne m'étais pas rendu compte que je croyais que l'intentionnalité cherchait à exprimer quelque chose. Alors ça bloquait un peu dans ma tête, justement. Je pense que je n'ai pas intégré ce que tu as écrit vraiment, mais tu dis un peu l'intentionnalité, ça pousse la conscience à faire des tentatives nouvelles. Et j'ai eu comme le registre d'arracher la tendance à la possession. Comme la tendance à la possession de... Le destin, c'est comme ça. Le destin, c'est comme ça. Pas des excuses que j'ai, mais ça existe, même si moi je ne connais pas. Mais que l'être humain n'est pas fini, mais il va être fini un jour. Il n'est pas très évolué, mais il va évoluer. Et même si moi je ne connais pas l'intentionnalité, et j'ai découvert que j'avais créé un objet Dieu avec l'intentionnalité, et je le savais même pas. Et en tout cas, la possession, encore et encore, est un déterminisme. Donc, j'ai trouvé. Ça m'a réveillée.
Voilà. Le problème que je vois qu'on a, nous, les êtres humains de cette époque, jusqu'à ce qu'on arrive à un autre niveau de conscience, que cette, la conscience a ce mécanisme acte-objet, et la pauvre conscience a besoin d'un objet, de formaliser, de se représenter un objet. Donc elle a l'intention, elle lance un acte, et dans ce niveau de conscience, nous avons besoin de posséder un objet. Et la conscience a donc cette limite encore, pour le niveau de conscience dans lequel on vit normalement, de renfermer l'objet. C'est un problème que nous avons à cause du niveau de développement de l'humanité, et personnellement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que ce mécanisme déterministe que nous avons dans la conscience, c'est celui qui nous pousse à chercher toujours à une fin, un objet fini. C'est comme ça la conscience se détend. Elle n'est pas encore capable d'être détendue en étant lancée. C'est pour ça qu'on a peur devant tant de liberté. Et c'est pour ça qu'on a peur aussi de ces registres du corps, ou de ces traductions des registres du corps. Parce que la conscience se retrouve face à des choses qu'elle ne peut pas renfermer. C'est un peu le mystère dont il parle. Mais si on voit l'intention comme une force qui pousse, mais pas comme une chose qui tend vers quelque chose de déjà défini, c'est pour ça qu'on cherche à rentrer dans le profond, parce que c'est là que se casse, que se rompt ce mécanisme déterministe de la conscience. C'est ce qui nous inspire, ce qui nous nourrit.
Oui, quand on revient d'une expérience comme ça avec le profond, même si on ne sait pas où on était, on a un petit moment, il n'y a rien à faire, parce que tout est bien. C'est comme s'il y avait un vide complètement plein, donc, mais ça ne dure pas très longtemps. Mais après, est-ce que on n'est pas allé chercher quelque chose de si important et si beau qu'on va le déterminer dans le monde, et c'est ça humaniser la Terre. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose d'immense, que l'on met dans quelque chose qui est déterminé. Quelque chose comme ça, qu'on avance au mouvement. Comme je ne sais pas, je vais dire la bonté, et on revient dans la bonté là, dans ce quartier-là,
et cette personne, et où l'on a...
on détermine là, quelque chose comme ça. Donc c'est ça, ça me change la vision de qu'est-ce que c'est déterminer. C'est le... une part, un aspect de déterminer, ça peut être aussi être appliqué.
Quand on traduit dans un contexte conditionné. Ça peut être la bonté, ou dans 1000 ans, je ne sais pas ce que ce sera. Mais nous, on vit dans ce contexte. Donc les traductions que nous faisons, les traductions, elles ont à voir effectivement avec ce contexte, cette enceinte culturelle. Mais forcément, en le faisant passer par la conscience et en le traduisant dans le monde, forcément, on le limite. Et quand tu as des expériences que tu prends dans le profond et que tu les traduis dans un contexte mental, culturel, qui est différent de celui d'il y a 1000 ans. Donc ce que tu prends, ce que tu ramènes et ce que tu traduis sert comme échelon pour avancer. Mon violence, par exemple, est très intéressante. Peut-être que dans 1000 ans, ça n'aura même pas de sens de parler de non-violence. Parce que peut-être que ce sera un monde tellement sans violence que, bon, il y aura peut-être d'autres thèmes que la future école devra traduire pour mettre dans le monde. Mais ce dont on a besoin là maintenant, c'est la non-violence, que je vois carrément comme une traduction du profond. Parce que c'est la chose la plus avancée en ce moment que tu puisses traduire dans le monde. Une des choses les plus avancées.
Et c'est vrai qu'en lisant la production, ce qui est venu, c'est... Bon, j'ai pas fait mental, mais... J'ai essayé de chercher, dans mon expérience, des moments avec une saveur de liberté, une saveur de mutation. Et j'ai dû ralentir les actes pour le voir. Et ce que j'ai trouvé, c'est les moments où quelqu'un m'avait bien fait chier. Et j'ai vu comme un carrefour, et je voyais bien comment je pouvais massacrer l'autre. Ouais, et j'ai choisi autre chose. Et j'ai choisi de ne pas me venger. Et c'était très petit et c'était immense. Mais je trouve que ce serait intéressant de regarder la biographie comme ça.
Est-ce que je sens une universalité dans ce que tu transmets? Parce que je la reconnais aussi. J'ai une question qui a été posée tout à l'heure. Je me dis, alors qu'est-ce que nous pouvons faire en plus? Enfin, je ne sais pas comment dire. Au-delà des opinions ou des points de vue.
De manière plus peut-être plus vivante, plus
externe, l'expérience de registre est très importante. Je veux savoir ce que toi tu veux me dire de ton expérience. C'est-à-dire d'aller au-delà du point de vue de l'opinion par rapport à l'expérience au registre que j'ai.
En prenant ce que dit Silo, c'est la première chose. C'est que l'expérience, on peut la traduire de différentes façons, de plein de façons. L'expérience en soi n'est ni mauvaise ni bonne. C'est pas qu'elle produise de la bonté parce que c'est l'expérience de la bonté. L'expérience, c'est une grande force qui, à un moment donné, s'exprime individuellement ou à travers des ensembles. Et il y a ce thème fondamental qui est le thème de la traduction. Donc, en tant qu'école, ce qu'a fait Silo, c'est de traduire dans le monde, à travers le message, à travers le mouvement, une expérience. En faisant cette traduction, ce qu'il a voulu faire, c'est de mettre un contexte, un contexte dans lequel la traduction se fasse avec bonté. Donc c'est un contexte de non-violence, traiter les autres comme on veut être traité, etc., tout ce qu'on connaît. Pour moi, c'est important d'avoir l'expérience, et je pense qu'on fait l'expérience en faisant la 16, en pratiquant la 16. L'expérience signifie rentrer en contact avec le profond. La traduction que je fais de ce contact est aussi importante que le contact lui-même. Cette expérience et la traduction qu'on fait de cette expérience nous donnent une perspective de notre vie et de notre action dans le monde. Et tout ce paquet nous permet de choisir à un moment donné. De choisir donc à un moment donné la voie de la non-violence ou plutôt que celle de la violence. Dans l'exemple là que vous donnez tout à l'heure. Ce que moi je fais donc, c'est la 16 pour avoir ce contact. Traduire ce contexte dans ce contexte que Silo a laissé.
Contexte doctrinal.
Et mettre en œuvre dans ma vie quotidienne des choix qui soient cohérents avec tout ça. Je peux m'appuyer sur des principes qui peuvent m'aider à choisir. Du point de vue de l'espace de liberté, les principes d'action sont l'expression de cet espace de liberté, précisément dans le comportement quotidien. Si tu fais ceci, tu te libères. Si tu ne fais pas ceci, tu t'enchaînes. Pas traite les autres comme tu veux. Lui dit, si tu traites les autres comme tu veux être traité, tu te libères. Donc ce que je fais, c'est ça. J'essaie d'aller là-bas, je ne sais pas où, et de m'inspirer et traduire de la meilleure façon possible. Bon, moi, j'ai une conscience, j'ai un corps, j'ai une tête, j'ai une enceinte culturelle, et donc mettre dans le monde cette traduction.
Ça me fait penser à un côté de Silo qui dit un peu de la mortalité, la commande mortelle. Ça me fait penser un petit peu à ce genre de changement de point de vue, enfin ça.
Pourquoi vous parlez de
ça? Mais bon, moi j'avais en discussion, après j'ai réfléchi, j'avais une autre réponse. Moi je considère plutôt le plan comme une direction. Et que toutes les opportunités, toutes les possibilités pour appuyer cette direction. La diversité direction. Sert à cette direction. Hein? Non, je dis ça. Il y a une direction et que cette direction
s'enrichit
de la diversité.
Justement, pour le plan, dans le schéma des états intérieurs, je parle de l'arbre, il y a le mot plan. Est-ce que cet registre de l'espace et de liberté, tu le places là, par exemple
Je crois que j'ai eu ce registre parce que j'étais là. Je vais te dire un truc par rapport à l'histoire. Sûrement, les relations que tu fais, elles existent. Dans l'enceinte des relations et des phénomènes existants, comme l'histoire, les faits historiques, il existe un enchaînement, que c'est un champ du déterminisme. L'enchaînement, on le trouve. Et ce qui est intéressant, par exemple, toi, tu relationnes un événement d'il y a 4000 ans avec un événement actuel, par exemple. C'est probable que quelque chose qui est arrivé il y a 4000 ans se révèle aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est tout ce qu'a lancé l'humanité pour qu'ait lieu cet événement il y a 4000 ans. Si tu te mets à la fin du processus, c'est facile de voir, ça a produit ça, qui ça a produit. Mais mets-toi au début, combien de millions ou de milliards de tentatives a fait l'humanité pour que cette chose se produise 4000 ans après. Combien n'ont pas fonctionné? Combien ne se réaliseront jamais? Et là, c'est là qu'on voit la force de l'intention, cette poussée de... Finalement, si tu le regardes à partir de la fin, tu vois ce qui a marché, ou ce dont on a connaissance. Actuellement, il y a une théorie de la variable redondante qui se donne dans chaque civilisation. Donc les variables redondantes sont des expressions qui se donnent dans les civilisations, qui ne servent à rien dans cette civilisation, des choses latérales, et qui peut-être ne serviront jamais à rien. Mais il y en a plein, il y a des milliers dans chaque de ces fameuses variables redondantes. Redondantes parce que ça varie. Mais quand cette civilisation commence à décliner, elle tombe, chute, ces fameuses variables redondantes qui prend le relais pour faire un saut. Une des différentes, une de toutes. Et quand on étudie l'histoire, ben on ne voit que la fameuse variable redondante qui a pris le relais pour donner le pas suivant. Mais à ce moment-là, il y en avait des milliers et des milliers. Et donc, cette histoire du hasard et de l'aléatoire, c'est justement dans toutes ces variables qui ne se sont pas exprimées, et une d'entre elles, seulement on ne sait pas laquelle.
Prendra le testimone et le portera.
Est-ce que tu fais un lien entre les mondes infinis dont Silo parle dans le message? Les multiples tentatives ou les multiples actes lancés?
C'est important aussi cette question. Je crois que quand il parle des mondes infinis, si on croit que ça c'est le seul monde et que ce soit le vrai monde, les possibilités se ferment. Si on sait ou croit qu'il existe des mondes infinis et que ce monde est une des diverses illusions possibles ou une des diverses créations possibles, les possibilités s'ouvrent. Je crois, moi, personnellement, c'est une croyance qui me plaît, que quand lui parle de mondes infinis, il parle de mondes infinis.
Ça, c'est bien dit.
Bon, Giordano Bruno, on l'a brûlé pour ça. Hein. Parce qu'il disait que si Dieu, à partir du moment où Dieu est infini, il ne pouvait pas avoir créé un seul monde. Le monde devait être infini, tout comme Dieu était infini. Bon, ils l'ont brûlé pour ça. Ça, on fait le schéma.
Je crois que dans notre liberté, nous créons des mots aussi. Enfin, nos actes créent des mots. Je ne sais pas si c'est en parallèle, orthogonal.
Ça, c'est en parallèle.
Ah, si.
Tu as faim?
J'ai quand même été surpris par la formulation que tu donnes à la fin de tes considérations scientifiques. Parce que tu donnes l'exemple des cellules dans une goutte d'eau, enfin, dans un stylocule. Et tu dis que, enfin, il décrit à Monod qu'il y en a des milliards. Et au sein de tout ça, il dit qu'on peut compter 100 ou 1000 mutations. Ça veut dire qu'on est dans un rapport au mieux de 1 pour 1 million. Donc, ça veut dire dans 1 million de répétitions à l'identique, on trouve une mutation. La mutation n'est donc pas la règle, mais n'est donc pas l'exception, mais la règle.
C'est pas la règle. La règle, c'est le changement.
Non, mais
l'exception, on peut compter avec. Ça, oui. Mais l'exception n'est pas la règle.
Mais là encore, excuse-moi, mais si par exemple tu vois qu'il y a un sur un million qui mute, tu peux faire le choix d'être dans parmi ce seul 1 sur un million, donc il y a quand même encore une liberté de choix.
En biologie, la règle, c'est la transmission exacte de l'information. Mais comme la règle est souvent cassée, rompue, l'information ne se transmet pas telle qu'elle, donc il y a une erreur, et donc il y a une mutation. Toutes ces mutations qui existent à l'heure actuelle, ce sont des tentatives que fait la vie pour avancer. C'est considéré comme des erreurs, mais en réalité, ce sont les possibilités qu'a la vie pour avancer. Des espèces, le nombre d'espèces qui existent, d'animaux, etc., il y en a des millions. Et ce sont des erreurs, des mutations qui ont permis justement la naissance de nouvelles espèces. Le thème de l'exception qui devient la règle, c'est Monod qui le dit, Parce que lui, il se pose la question, comme tous les biologistes, comment est possible la stabilité avec toutes ces erreurs et toutes ces mutations perpétuelles. Ça, dans le champ de la biosphère. Parce que maintenant, les questions qu'il se pose, c'est comment est possible la stabilité d'une biosphère à l'intérieur de toute cette diversité, alors qu'avant, le problème, c'était l'inverse. La diversité, c'était des erreurs, et donc on ne les prenait pas en considération. Mono, comme tous les biologistes. Ouais, d'accord, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est les mutations. Et bien alors, comment est possible l'évolution sans ces erreurs? Tout continue toujours pareil. Pour s'expliquer l'évolution, il faut intégrer dans leur vision de la biosphère les erreurs et la mutation comme partie intégrante. Et donc la question devient, mais comment est-il possible que la biosphère soit stable ?
Dans tout le document, tu sembles prendre le parti de considérer que les changements sont uniquement du hasard, comme s'il n'y avait aucune intentionnalité.
Voilà comment moi je vois les choses. L'intention, c'est une force qui pousse. Et cette même force qui permet que se transmette de la même façon d'une protéine à l'autre l'information, force qui pousse hein, à ce que se transmette de la même façon, c'est la même force qui pousse les mutations. L'intention ne sait pas si l'information va se transmettre de façon précise ou pas. Quand on lance une intention, on ne sait pas si ce qu'on est en train de lancer avec cette intention, si ça va nous servir ou pas. On espère que oui. Et parfois, on lance des intentions qui, au regard de la société, c'est des erreurs. Et on se sent mal. Mais elles se révèlent être justes. Elles se révèlent être un point d'appui pour évoluer. L'intention, c'est la force qui pousse. Elle ne sait pas ce qui va arriver. Au final, à la fin. Le hasard, où est-ce qu'il se situe? C'est que cette information peut se transmettre de façon exacte ou erronée. Exacte dans le sens de pareil.
Tel.
Mais peut-être que l'échelon sur lequel va s'appuyer l'évolution, c'est celui que nous, on appelle erroné. Alors, tout ça est hasardeux, aléatoire. Hein? Parce qu'on lance des intentions continuellement, poussées par cette force, par cette intention, et on se trompe, on retourne en arrière, on réessaye, on se sent mal, on revient en arrière, on a une contradiction, puis on réessaye. Ces choses que nous lançons, qui dépendent aussi du contexte culturel auquel nous appartenons, sont aléatoires, hasardeuses. Et ce qui aura plus ou moins de succès est aussi aléatoire. Mais cette force qui nous pousse donne une direction où on croit que, moi j'ai cette intention, et donc ça va réussir. Et puis des fois on se rend compte que non, c'est pas comme ça, alors on fait marche en arrière. Et de cette façon, on lance plein de choses. Imaginez au niveau de l'humanité la quantité de tentatives qui sont en train de... Et on ne sait pas laquelle de ces tentatives va servir pour l'évolution. Peut-être qu'il y en aura 10 000 qui serviront. Et peut-être un seul va réussir. Et d'autres, 10 000 qui créent au contraire une involution. On parle d'images, de choses lancées qui produisent des images. Les choses devraient être comme ça. Bien sûr que l'intention pousse dans une direction. Tout ce qui se donne réellement, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, si je crois que le monde est vrai ou que le monde doit être comme ça, peut-être que c'est pas comme ça. On ne sait pas si c'est comme ça ou pas. Mais moi, ça me produit une acceptation, une réconciliation avec l'être humain énorme.
Ça rappelle la conversation antérieure quand Isabelle parlait de la possession, quand on est figé. Dans ce que tu dis, c'est comme une traduction d'une liberté sans fin. Qu'avant, traduisait avec les yeux, ça me fait penser à la balade de guitare, le yoga de l'action. Non, que toi, tu fais l'action, mais le résultat de l'action, il vient des dieux, du sacré.
Bon, mais malgré tout, tu dis des choses assez différentes. De cette intention que chacun lance, et on ne sait pas si déjà on va obtenir. Et en plus, on ne sait même pas si ce qu'on a souhaité et si ça se réalise, ce sera vraiment bien pour le monde. Mais tout ça, ça ne rend pas l'action que chacun lance aléatoire. Si on revient au niveau des plantes, tu présentes les choses comme il y a une intention qui pousse dans la répétition à l'identique et il y a un espace de liberté pour que ça ne marche pas et se produise une mutation aléatoire. C'est comme ça que tu as présenté les choses. Mais dans cette chose-là, il n'y a pas d'espace pour l'adaptation. Pour moi, l'espace de liberté de la poule, c'est d'orienter la mutation pour que la descendance soit mieux adaptée qu'elle-même. Son espace d'adaptation, de liberté, c'est d'orienter la mutation.
La
vision qu'il propose, c'est que la transmission génétique, elle a toute cette dimension de déterminisme, de mécanicité, qui est de répéter le code.
Ouais.
Et que dans cette répétition, il y a des erreurs, et ces erreurs sont aléatoires. Ouais. Et c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est le thème de pourquoi lui, il voit que les changements sont toujours aléatoires. Après, il a fait un saut avec les humains qui est « on ne sait pas vers où ça va nos résultats », mais la question n'est pas du résultat, elle est de l'intention. Où est-ce qu'il y a un espace d'intention? Et moi, j'ai une vision des choses qui est que depuis la particule jusqu'à l'être humain, il y a une gradation de déterminisme, que chaque fois qu'on a une structure plus complexe, ça veut dire qu'il y a un espace de liberté qui grandit, et que dans cet espace de liberté, une intention peut se manifester, qui est proportionnelle à l'infinitésimale de liberté qu'il a.
J'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a quand même beaucoup de choses de ce qu'il a dit
précédemment. Non, lui, il élimine totalement l'intention et la direction de l'intention. Quand il dit la mécanique, et il m'a dit oui que c'était ça qu'il a dit, quand il dit la mécanique de la répétition de la nature, elle est que l'intention c'est de répéter à liberté, et la marge d'évolution c'est des erreurs dues au hasard, il n'est pas en train de dire qu'il y a un espace dans cette évolution pour une intention. Il est en train de dire que l'intention elle est dans la non-évolution. Et c'est ça que je questionne, c'est que la mutation...
La plante, là, si on parle de la plante, on parle d'une situation donnée. L'intention de la plante, c'est effectivement de produire quelque chose de plus complexe. Le fait que, ça produit des mutations diverses, seulement certaines serviront. Certaines seront même régressives. D'autres seront trop évolutives et ne s'adapteront pas au milieu ambiant. L'espace de liberté dont je parle, c'est un espace de liberté qui se donne à l'intérieur de conditions et de déterminisme. Mais ce que je dis, c'est que ce qu'on croit qui est pur déterminisme cohabite continuellement avec un espace de liberté qui est beaucoup plus ample que ce qu'on croit habituellement, qui est justement ce qui permet ces déviations dont certaines seront régressives et elles se perdront, s'adapteront au monde, au milieu ambiant, et serviront comme échelon pour avancer. Donc, au niveau de la plante, mais aussi au niveau de l'intention humaine. Il y a des inventions, propositions, qui sont nées dans l'histoire et qui se sont perdues, sont réapparues 2000 ans après, par exemple. Mais au moment où elles sont apparues, elles ne servaient à rien. Parce que tu es quand même à l'intérieur de conditions.
Voilà, condizione naturale, sociale,
sociale,
psicologiche,
niveau de conscience. Les deux espaces coexistent continuellement.
Ma seule préoccupation, c'était que tu semblais donner beaucoup d'espace au hasard à une chose aveugle. Et moi, je questionnais ça par rapport au thème de l'intention.
On parle d'un espace à l'intérieur de ces conditions. On ne peut pas parler d'autre chose. Quand j'ai eu l'intuition de cet espace avec d'infinies possibilités, qui a été choquant, la traduction, elle est nécessairement à l'intérieur des conditions dans lesquelles je vis. J'ai pris l'intuition, mais elle se donne dans un contexte qui a des conditions. Mais cet espace de liberté, il me permet de voir les choses d'une autre façon. Peut-être que ça va servir ou peut-être pas.
Merci beaucoup.